je vais dire quelques mots. Dans la suite de ces rencontres des soumissions par la propagande et des pistes pour en sortir, Ricardo nous a envoyé trois films de l'équipe de Data Girl. Donc il y a trois films que je vais vous montrer. Un sur la démocratie, un sur l'évasion fiscale et le troisième sur le régime représentatif. Je ne sais pas très bien ce que c'est, mais on va le savoir. Et puis, il y en a pour 20 minutes de film à peu près. Donc si vous êtes d'accord, on va commencer par le premier, qui dure 4 minutes, qui est sur la démocratie.
Si la bine ne fait pas le moine, le moine ne fait pas la démocratie. Bonjour. La France n'est point et ne peut pas être une démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Joseph Sieyès, député du tiers-état, figure essentielle de la Révolution française. Nous sommes le 7 septembre 1789 et celui que l'on appelle l'abbé Sieyès prononce ces mots à l'Assemblée nationale, né 3 mois plus tôt. J'ai toujours été pour une république libre, pas une démocratie qui est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable. Cette fois-ci, ce sont les mots de John Adams, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, dont il a été le second président. Mais alors quoi? On ne parlait pas de démocratie pendant ces grandes révolutions? Ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple? Assez peu. Loi, peuple, liberté ou encore nation et constitution, voilà les mots vedettes dans les textes de la Révolution française. Ce n'est que loin derrière qu'arrive celui de démocratie. Après, représentant et souveraineté. Et quand on l'utilise, c'est en guise d'épouvantail. Dans l'arène politique de l'époque, que ce soit en France ou aux États-Unis, être qualifié de démocrate est clairement une insulte. Sieyès agite le risque d'une démocratie populaire avec ses mouvements tumultuaires et incertains. L'Américain Elbridge Gerry, l'une des plumes ayant signé la déclaration d'indépendance, s'enflamme. Les malédictions que nous expérimentons découlent des excès de la démocratie. Il faut donc imaginer un système qui protège la société d'elle-même, éviter à tout prix cette dangereuse démocratie. L'exemple d'Athènes était bien connu des penseurs politiques de nos chères révolutions. Mais hors de question d'utiliser le tirage au sort, ça c'était bon pour les Grecs. Élisons des représentants, voilà l'option qui l'emporte. Bienvenue en aristocratie. Eh oui, Montesquieu l'écrit clairement dans son Esprit des lois, le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie. Placer l'élection au cœur de ces républiques fraîchement nées, c'est acter qu'il existe une élite bien plus capable de s'occuper de la chose politique que les autres. Ça tombe bien, c'est cette même élite qui a choisi cette organisation. Mais d'où vient cette étrange idée d'une assemblée représentant le peuple? Du Moyen Âge. Les premiers états généraux sont convoqués en 1302 par Philippe le Bel, roi de France. Clergé, noblesse et tiers états s'y retrouvent réunis dans un but bien précis, légitimer le roi face au pape Boniface VIII. L'illusion d'une représentation nationale est là, mais déjà aucune trace de démocratie. Quelques siècles plus tard, à l'aube de la Révolution, Sieyès, toujours lui, fait cette remarque. Il ne s'agit parmi nous que de commerce, d'agriculture, de fabrique, etc. Le désir de richesse semble ne faire de tous les états de l'Europe que de vastes ateliers. Pour lui, le peuple souhaite avant tout s'occuper de ses biens privés. La liberté de l'époque est celle de participer à la société commerçante. Le gouvernement représentatif est la solution. Le peuple délègue ainsi la gestion des affaires publiques à des représentants et peut s'occuper de ses affaires privées. La division du travail appliquée aux politiques. Reste un dernier tour de passe-passe. Alors que la démocratie était encore une insulte, certains en ont fait un argument de campagne. Nous sommes en 1828 et Andrew Jackson est élu 7e président des États-Unis. Comment? En étant le premier à se proclamer démocrate. Il se présente ainsi comme le candidat des petites gens face aux élites, récoltant du coup les voix des classes populaires. 15 ans plus tard, tous les autres candidats auront fait de même. Au passage, Jackson amène aussi le parti qui le soutient à changer de nom. Ainsi, le parti républicain devient parti démocrate. Rien dans les mains, rien dans les poches, du marketing politique avant l'heure. Dans un contexte social bien différent, les pères fondateurs de nos républiques étaient donc ouvertement opposés à la démocratie comme régime politique. Ce qui n'enlève rien à leurs intentions sincères, liberté, égalité, justice. Ce sont d'ailleurs ces élites élues qui ont écrit des textes fondamentaux comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France ou le Bill of Rights américain. Étonnante complexité. Sauf qu'aujourd'hui, le mot démocratie s'est perdu. Il ne désigne plus un système politique, mais un agrégat d'idéaux dont chacun peut se réclamer. Ce mot, devenu sacré, est intouchable. Ne pas se proclamer démocrate est un suicide politique. Affirmer que l'on n'est pas en démocratie est un crime de lèse-majesté. Et alors, comment réfléchir à des alternatives si l'on ne peut déconstruire le système en place? Il va sans doute falloir sortir de cette impasse pour construire une véritable démocratie.
C'était le premier. Je vous passe le deuxième film sur les paradis fiscaux.
Le principe de l'ombre, c'est qu'elle se déplace en même temps que la lumière. Bonjour. 330 milliards de dollars chaque année pour les États-Unis, 2% du produit intérieur brut américain. Près de 1000 milliards d'euros par an en Europe. Cette même Europe dont le budget dépassait à peine 162 milliards d'euros en 2015. 40 à 80 milliards d'euros rien que pour la France. Voilà un rapide coup d'œil sur le joli pactole de l'évasion fiscale. Un trésor qui pourrait donner envie de colmater les fuites. Et pourtant, en 2005, il y a plus de 10 ans, l'Europe adopte une directive pour taxer les avoirs détenus par des particuliers en Suisse. L'intention est louable. Entre 2004 et 2012, le nombre de comptes suisses liés à des ressortissants européens passe de 25% à 11%. Sauf que, sur la même période, les comptes liés à des sociétés écrans, sans nom identifiable, bondissent de 50 à 65%. C'est ballot. 4 ans plus tard, en 2009, à Londres, Nicolas Sarkozy déclare fièrement « Le temps du secret bancaire est révolu. » Ou pas. Entre avril 2009 et mai 2013, les avoirs financiers stockés en Suisse ont grimpé de 14%. Et c'est pas pour faire du tricot. En 2013, sur 1800 milliards d'euros gérés en Suisse, 600 milliards auraient atterri au Luxembourg, point de départ d'un long voyage vers d'autres cieux fiscaux. 150 autres milliards se seraient envolés vers les accueillants fonds d'investissement irlandais. Au final, seuls 200 milliards seraient restés sagement dans les banques helvètes. Toujours en 2009, l'OCDE crée deux listes de paradis fiscaux. La noire pour les vilains qui ne veulent rien entendre et la grise pour les pays qui promettent d'agir. Les États ciblés peuvent sortir de ces listes grâce à des conventions fiscales signées avec d'autres pays. Il en faut au moins 12. Parfait! Dès 2009, Monaco signe donc 12 conventions, dont 7 avec d'autres paradis fiscaux. Idem pour la Belgique, qui elle aussi était sur la liste grise, et en sort grâce à 12 signatures, dont 7 avec des paradis fiscaux. Entre collègues, il faut bien céder. Mais ne soyons pas négatifs. En octobre 2014 se tient le 7e Forum mondial sur la transparence et l'échange des renseignements à des fins fiscales. Sous l'égide de l'OCDE, 89 pays s'engage à mettre en œuvre un nouvel outil contre le secret bancaire, l'échange automatique d'informations fiscales. Dès 2017 pour plus de 60% d'entre eux et en 2018 pour les autres. Savoir qui détient quoi et où, le glaive de la transparence. Avril 2016, à peine 18 mois plus tard, 11,5 millions de fichiers sortent des archives du cabinet d'avocats Mossack Fonseca. Les Panama Papers sont la plus grosse fuite de documents de l'histoire. Plus de 214 000 sociétés, trusts et fondations apparaissent domiciliées par l'entreprise panaméenne. Une gifle. Et ce n'est qu'une partie du gâteau. Prenons ce ravissant petit archipel de 153 km² que sont les îles Vierges Britanniques. Un paradis fiscal parmi tant d'autres. Il accueille 136 sociétés proposant des services financiers. Comme le fait Mossack Fonseca. Autant dire qu'il reste du pain sur la planche à billets. Les mailles de la lutte contre l'évasion fiscale ont beau se resserrer, le filet reste percé. Regardons l'échange automatique de données fiscales. Il ne se fera pas entre l'ensemble des 89 signataires. Ce serait trop simple. Chaque territoire choisira avec qui il accepte d'échanger ses données. De quoi s'amuser à brouiller les pistes. Et au passage, devinez quoi, le Panama ne fait pas partie des signataires. Ah, dernier petit détail. Ces outils excluent les pays en voie de développement. Pourtant, depuis 1970, plus de 12 000 milliards de dollars se seraient envolés des économies des 150 pays les plus pauvres de la planète. D'après le FMI, comparé aux membres de l'OCDE, les pays du Sud sont trois fois plus vulnérables aux tours de passe-passe des multinationales. Dans ces États, pour chaque dollar reçu en aide ou en investissement, 2 dollars s'envolent grâce à la fraude et l'optimisation fiscale. Difficile de bâtir un avenir quand le sol se dérobe sous vos pieds.
Renaud Fossard, chargé de mission justice fiscale dans le réseau latino-américain, la CIDAD. L'évasion fiscale pour les pays en développement est massive. Tout simplement parce que les pays en développement ont des besoins criants de développement, c'est-à-dire de pouvoir investir dans les politiques publiques et donc de pouvoir avoir des leviers budgétaires dans leur économie. Or, le principe d'un pays en développement, c'est d'avoir une économie restreinte. Si dans ce cadre-là, les multinationales, qui sont généralement basées au Nord, viennent, exploitent le pays, en tirent les matières premières et s'en vont sans payer d'impôts, on a un gouvernement avec des besoins criants qui ne peut même pas financer donc ses routes, ses hôpitaux et ses écoles. En France, on parle de 60 à 80 milliards d'évasion fiscale par an. Le trou de la Sécu, c'est 10 milliards. Donc on n'est pas dans du 200 millions de fraude à la CAF. On est dans des très très gros montants et ça, c'est la France. Donc quand on va dans des pays en développement, tout part aux extrêmes. Il y a plus d'évasion, il y a plus de besoins. Le grand écart devient intenable et on a des pays qui ne s'en sortent pas. Ce qu'ont fait les pays du Nord depuis quelques années, c'est resserrer l'étau du système fiscal international qui est cassé dans son fondement. Le système fiscal international permet aux multinationales de ne pas exister en tant que multinationales, mais seulement en tant qu'addition de filiales. Les multinationales savent jouer avec ça et au final faire disparaître les profits de là où ils sont générés pour qu'ils apparaissent ailleurs. Les pays du Nord ont des vraies capacités pour contrôler les multinationales et donc elles luttent, elles font des combats d'ingéniosité avec les unités d'optimisation fiscale des multinationales. Donc quelque part, les États du Nord retrouvent un petit peu d'argent sans retrouver néanmoins ce qu'ils devraient. Par contre, les États du Sud sont totalement démunis parce qu'ils ne peuvent pas jouer à ce jeu d'ingéniosité. Ils ont moins de personnes dans leur administration fiscale qu'une grande multinationale dans son unité d'optimisation. Ce que font les pays du Nord à l'heure actuelle, c'est tout faire pour éviter que le système change et donc rester dans le système cassé et essayer de l'améliorer un tout petit peu. L'intérêt des pays du Nord dans ce jeu-là est de continuer à taxer eux-mêmes les multinationales qui ne payent pas leurs impôts dans les pays du Sud. C'est-à-dire que je suis le gouvernement français, je préfère que ma multinationale qui travaille au Pérou et en Bolivie paye peu d'impôts là-bas, que les profits remontent un petit peu au siège, et moi, gouvernement français, je peux enfin un petit peu le taxer. Si jamais demain les pays du Sud peuvent taxer comme il se doit à juste valeur les multinationales, il y aura évidemment une masse fiscale beaucoup plus réduite au niveau du siège. Les sièges étant dans les capitales européennes et américaines. C'était très frappant à Addis Abeba au sommet pour le financement du développement. Les pays en développement, les pays émergents, Brésil, Inde, Chine, l'ensemble de l'Amérique latine, l'Union africaine, ont demandé qu'aux Nations Unies soit installé un corps de fiscalité internationale, intergouvernementale, pour définir les règles internationales. C'est-à-dire que les règles ne soient plus définies à l'OCDE, 34 pays développés et riches, mais soient définies aux Nations Unies, 193 pays. Jusqu'au dernier moment, les pays, en particulier les États-Unis et l'Europe, ont bloqué cette demande des pays en développement. Le mandat politique reste entièrement attribué à l'OCDE. Il est refusé aux Nations Unies. Les Nations Unies ne peuvent définir les règles de fiscalité internationale. Elles peuvent seulement en faire de l'analyse. Une première chose à faire pour savoir comment fonctionne une entreprise, où sortent ses profits, c'est tout d'abord qu'elle rende des comptes sur l'ensemble de ses activités économiques. C'est quand même incroyable de penser qu'une entreprise comme Total, si vous allez sur son site aujourd'hui, vous ne saurez pas où est-ce qu'elle est installée de manière exhaustive. Vous ne saurez que les filiales qu'elle veut bien vous transmettre. Logiquement, si elle est dans les paradis fiscaux, elle ne vous le dira pas. Ce qui est demandé par la société civile et dorénavant par des organisations internationales, c'est la transparence pays par pays public. C'est-à-dire que l'ensemble du public, moi, vous, si on va sur le site internet, on puisse savoir, connaître l'ensemble des filiales. S'il y en a dans les paradis fiscaux, on le verra immédiatement. Si ça c'est possible, non seulement le fisc pourra très rapidement avoir une idée des schémas d'évasion fiscale, mais tous les journalistes d'investigation, la société civile et même le citoyen. C'est une pression sur le risque réputationnel des entreprises qui fait que ça remettrait probablement rapidement les choses dans l'ordre. On nous disait, sur le reporting pays par pays, c'est pas possible, les entreprises vont y perdre trop, etc., etc. Ça a finalement été appliqué par secteur. Donc aujourd'hui, dans le secteur bancaire et financier, ça existe. Et pourtant, on a toujours l'argument de non, c'est pas possible de le mettre au niveau de l'ensemble des multinationales parce qu'elles vont y perdre, etc. Donc concrètement, cette solution est en train de devenir réelle. Le seul point d'achoppement qui reste, c'est public ou non public. Or, c'est là tout l'enjeu, parce que précisément, mettre en lumière, c'est créer énormément d'informations. Il y a une chance là qu'on ait milliers de filiales. Il faut les traiter, ces informations. Et les pays en développement, avec les administrations fiscales dont ils disposent à l'heure actuelle, ils vont avoir des difficultés. Il faut qu'ils accèdent à ces informations, mais il faut que la société civile, les journalistes d'investigation, les citoyens puissent les aider à traiter l'information. Donc c'est absolument très important que ce reporting pays par pays soit public et non pas qu'il reste entre les administrations fiscales. Ce qui est demandé par la société civile et par une partie des pays du Sud, c'est de changer le système même de taxation et de ne plus courir après quelle filiale commerce avec qui, mais d'attendre tranquillement que l'ensemble des profits de la multinationale remonte à son siège, de regarder le siège et de taxer au niveau du siège et de réattribuer ensuite. Ça s'appelle la taxation unitaire. Si ce système est installé, il n'y a plus de pays du Nord, plus de pays du Sud. Il suffit d'attendre que les choses se passent et d'ensuite aller voir le modèle économique et de le réattribuer là où le profit a été généré. Si les pays développés continuent à empêcher les pays en développement de participer à la décision des règles et de donc participer finalement à leur part du gâteau, il faut qu'ils assument les crises des migrants derrière. Il faut qu'ils assument les crises humanitaires qui ont cours dans ces pays-là. Les enjeux de pauvreté et les retours de bâton que les pays développés vont prendre suite aux crises humanitaires et politiques qu'il y a dans les pays en développement sont partis d'un tout qui est la répartition des richesses au niveau mondial.
Rééquilibrer la balance, revenir à la source des revenus, déconstruire un système dont l'opacité est la règle pour en faire l'exception. Et ne pas s'arrêter aux déclarations victorieuses. En mai 2016, la France décrète la mise en ligne d'un registre public des trusts accessible à tous. Belle annonce. Surtout lorsque l'on sait que 80% de l'évasion fiscale mondiale transite par des trusts. Mais leur forme juridique reste complexe. Listing ou pas, il est toujours possible de faire disparaître les bénéficiaires réels. Rien dans les mains, rien dans les poches. En attendant, les lanceurs d'alerte sont les seuls agents d'une transparence pourtant essentielle. Et ils le pêchaient. Antoine Deltour est le dernier en date. Grâce à lui, nous comprenons un peu mieux le modèle économique du Luxembourg. En juin 2015, il a reçu le prix du citoyen européen, décerné par le Parlement européen. Aujourd'hui, il risque 18 mois de prison au Luxembourg. Les pays riches portent l'étendard de la lutte infaillible. Mais sous ce drapeau, l'ombre fiscale continue de s'étendre sur les plus pauvres, jusqu'à l'absurde. À force d'être tenus à l'écart, certains pays se disent qu'après tout, paradis fiscal est un modèle économique comme un autre, comme le Ghana ou encore la Jamaïque. Alors on les pointe du doigt, scandalisés, et on oublie bien vite les trous béants dans nos listes noires. Les Pays-Bas, par exemple, ils président actuellement l'Union européenne. Or, leurs règles fiscales, bien calibrées, sont précieuses pour les multinationales. Grâce à elles, 100 milliards de dollars échappent chaque année aux économies des pays en développement. Sur ces listes, aucune trace non plus de la Suisse ou des États américains comme le Delaware. Décidément, notre étendard manque de panache. Le problème semble insoluble car il est systémique. Mais un système n'est que le fruit d'une succession de choix politiques. Dénoncer l'injustice fiscale demande du courage quand on est lanceur d'alerte. Lutter pour la justice fiscale en demande tout autant lorsqu'on est élu. Et au milieu, les voix citoyennes peuvent peut-être peser dans la balance.
Le troisième, c'est régime représentatif, mais de quoi ? Donc, Datagueul 72.
Quand le présent ne représente plus, le futur s'enfuit. Bonjour. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Constitution française, article 3, premier alinéa. Faisons un peu de dissection constitutionnelle. Souveraineté nationale, peuple, représentant. Ce qui relie principalement ces trois éléments, en théorie, c'est le vote. Mais depuis quelques années, ce lien semble un peu distendu. Il y a la célèbre abstention, bien sûr. Si l'on prend le second tour des élections présidentielles depuis 1981, elle n'est jamais passée sous la barre des 15%. 20,3% en 1995 et en 2002, un creux à 16% en 2007, une exception, puis 19,6% en 2012 et un joli 25,3% en 2017. Regardons les législatives qui nous permettent d'élire les députés de l'Assemblée nationale. L'abstention y est passée de 30% au premier tour de 1988 à près de 43% lors de celui de 2012. Les élections européennes, 39% d'abstention en 1979, 56% en 2014. Et ce serait la faute des votants ? Pour la première fois, lors des élections présidentielles de 2017, les votes blancs sont décomptés séparément des votes nuls. Enfin, résultat, au second tour, 8,5% des votants ont glissé un bulletin vierge dans l'urne. Une façon de dire le vote oui, mais ce vote non. Quand on vous dit que le lien est fragile, or, mécaniquement, plus l'abstention s'installe, plus la notion de représentativité des élus s'effrite. En France, les résultats annoncés d'une élection sont calculés en faisant le ratio entre le total des bulletins valides, c'est-à-dire or, blanc et nul, et le nombre de bulletins obtenus par chaque candidat. Pour les législatives de 2012, par exemple, les 577 députés élus ont obtenu en moyenne 54,38% des suffrages exprimés. Sauf que, si l'on fait le calcul en se basant sur le nombre total d'inscrits, donc de votants potentiels, et non uniquement sur les bulletins valides, la perspective change. En tenant compte de l'abstention et des bulletins blancs ou nuls, ces mêmes 577 députés ont en fait été élus avec seulement 30% des voix des inscrits. En moyenne, avec ce mode de calcul, aucun des députés élus en 2012 n'a obtenu plus de 50% des voix des inscrits. Une seule députée a gagné son siège à l'Assemblée nationale en dépassant les 40%, tandis que 256 autres furent en réalité élus par moins de 30% des inscrits sur les listes électorales. Un chiffre qui ne cesse de chuter depuis 1968, où les députés avaient été élus en moyenne par 50% des inscrits. Adieu, idée de majorité. Regardons du côté de l'équité. Même si au fil des élections, les députés sont de plus en plus nombreuses au Palais Bourbon, en 2012, elles n'étaient toujours que 155, à peine plus d'un quart de l'Assemblée nationale, et plutôt éloignées des postes stratégiques. Seuls 10% des présidents et vice-présidents de groupe sont des femmes, et moins de 5% des présidents et vice-présidents de commissions permanentes. Un déséquilibre qui existe aussi à d'autres niveaux. En 1978, les ouvriers représentaient 6% des députés. À l'issue des législatives de 2012, seul un député était ouvrier, contre plus de 13% dans la population française. Étrange idée de la représentation. Revenons-en au vote. Près de 3,5 millions de Français en droit de voter ne seraient tout simplement pas inscrits sur les listes électorales. Et là encore, l'inégalité est de mise. Alors que cela concerne 9% des ouvriers, la non-inscription ne touche que 2% des cadres supérieurs. Et puis, il y a les mal-inscrits, celles et ceux qui sont inscrits ailleurs que dans leur commune de résidence. 6,5 millions de votants, dont une grande majorité de jeunes, plus de 50%, ont entre 18 et 34 ans. Des situations en partie liées aux contraintes des règles d'inscription sur les listes électorales. Et devinez quoi ? Les risques d'abstention sont en moyenne 4 fois supérieurs quand on est mal inscrit. Même le contrat de travail a son importance. Qu'il s'agisse d'ouvriers ou d'employés, celles et ceux en CDD ou en intérim ont une probabilité de s'abstenir 3 à 5 points supérieurs à la moyenne. Nos inégalités sociales se retrouvent aussi dans les urnes. Pilier de notre régime représentatif, notre système de vote semble donc sérieusement déroger à quelques règles démocratiques élémentaires, faisant de la représentativité des élus un mirage et polarisant un peu plus au fil des scrutins notre société. Et si l'on questionnait notre République avant que tout l'édifice ne s'écroule ?
Non, en fait, c'est une réflexion qui a commencé il y a quelques années avec un groupe d'amis sur justement cette augmentation totalement artificielle de la population à Genève, une croissance démographique importée par les multinationales entre, grosso modo, bon, ça varie d'une année à l'autre, mais grosso modo, ces dernières années, c'était plutôt entre 5 et 10 000 personnes importées par les multinationales avec un pouvoir d'achat, évidemment, qui ne correspond pas à celui de la classe moyenne genevoise. Et avec comme conséquence, on a vu l'apparition l'été ou l'automne passé de ce groupe contre l'enlaidissement de la ville, avec comme conséquence la démolition de lieux sympas, la perte de la qualité de vie, saturation de nos infrastructures, aussi un empiètement sur les espaces verts, et puis, bref, disparition de bâtisses avec une certaine valeur architecturale ou patrimoniale. Et il semblerait, parce que j'ai assisté à il y a différents groupes qui, en fin de compte, se rejoignent sur cet aspect-là de la question, parce qu'on peut toujours lutter contre l'enlaidissement de la ville, contre la densification, si on ne va pas à la cause même, qui est l'augmentation artificielle de la population, on n'arrivera jamais à lutter. On courra toujours à coup de référendum ou autre contre ce que font les autres. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a des gens de tous les ventailles politiques qui tombent d'accord sur un point, un dénominateur commun, même s'il est très étroit, c'est justement cette question de l'augmentation de la population à Genève. Et cet éventail, il va de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les verts pur sucre, hein, des vrais verts, et pas des verts politiques. Et je pense qu'on assiste à l'émergence d'un mouvement d'une grande ampleur, et c'est assez intéressant. Alors maintenant, je ne sais pas si on arrivera à éviter les dissensions entre les extrêmes, parce que j'ai déjà assisté à, lors de la manif qu'il y a eu il y a deux samedis ou trois samedis contre, c'était avant la votation, donc sur ce thème, à des prises de bec contre des gens de bord totalement opposés. Je crois, c'est mon point de vue personnel, que si on veut avancer, il faut arriver à faire quelque chose avec des gens qui ne pensent pas du tout comme nous, mais qui, sur un point, sont d'accord de se mobiliser dans la même direction que nous. Enfin, quand je dis nous, des gens dont je parlais tout à l'heure. Alors voilà, je pense que c'est intéressant quand on arrive à ça. Et puis, éviter aussi la manipulation des partis politiques, parce qu'évidemment, tous les partis politiques essayent de récupérer. Là, en l'occurrence, les partis d'extrême droite, mais voilà. On voit aussi le rôle que jouent, par exemple, les écolos dans le bétonnage de la ville. Voilà, je crois qu'il y a une remise en question générale à faire sur cette question-là, et puis je crois que ça touche vraiment des gens de sensibilité très très différentes. Voilà. Donc, j'avais mis j'avais plutôt distribué cette feuille, mais je crois que tout le monde l'a eu sur les 500 000 cétacés. Je ne sais pas si quelqu'un...
Moi, je ne l'ai pas eu.
Ah, voilà, alors je vais te la passer. En fait, ça n'a aucune prétention, ce texte, autre que susciter la réflexion. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on demande sur ce tract, que les gens manifestent, fassent part de leurs réflexions, etc. Et voilà, donc il y a différents groupes existants, dont un groupe qui est mené par l'ex-maire de Genève, Patrice Muni, qui a complètement changé. Alors, c'est un type que je connais depuis longtemps. Il a vraiment complètement changé. Il n'est plus du tout en phase avec son parti. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des gens, notamment des ex-politiciens, qui sont sur ces positions et qui sont favorables justement à une remise en question de cette question de la croissance.
Oui, parce que Genève est victime de son succès, entre guillemets. Oui, c'est
ça. D'un succès basé sur la croissance. Alors, quelle croissance et pour qui ? Voilà, c'est ça la question. Et on peut dire la même chose, la construction. On construit pour qui et pourquoi ?
Et on a grandi. Ouais. Façon de parler. L'aéroport pour qui ?
Oui, c'est ça. Voilà, alors tout se tient, y compris donc... Les groupements de quartiers qui ont participé à la votation cantonale, donc dernièrement, il n'y en a qu'un qui a gagné, c'est le quartier de Chêne-Bougerie. Les deux autres, malheureusement, ont perdu leur référendum. Mais bon, il y a l'aéroport, il y a encore plein de choses. Et puis, je crois essentiellement qu'on a à lutter contre deux vaches sacrées. Sur ce thème-là, c'est la vache sacrée de la gauche qui est le logement. Ils n'ont jamais posé la question, il faut construire, mais ils n'ont jamais posé la question, on construit pour qui ? Et puis à droite, la vache sacrée, c'est la croissance. Alors quelle croissance et pour qui, encore une fois ? Et je pense que c'est tout ça qui est en train d'être remis en question par des gens de sensibilité très différentes, mais qui voient qu'on est dans une fuite en avant et qu'on va buter contre le mur d'ici pas trop longtemps.
Juste sur la forme, parce que moi je trouve assez fascinant ce que dit Jean.
Ouais.
Ce soir, comment dire, on a déjà discuté entre nous, on ne sait pas très bien comment continuer. On a travaillé la dernière fois sur des post-it, mais les gens qui ont écrit les post-it ne sont pas là. Bref, on ne sait pas très bien comment continuer. Si vous êtes d'accord, moi je propose qu'on discute un peu, on continue encore un moment sur ce que dit Jean. Ça vous va ?
Oui, c'est un sujet d'actualité, effectivement.
Okay. Et puis c'est un sujet d'actualité. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire ?
Bon, oui. Pour revenir un peu sur Afrin, quand même.
Et puis revenir sur Afrin.
Après, oui, on avait convenu qu'un peu plus tard, là, on allait traiter des sujets plus en lien avec les films et tout, en premier, et puis ensuite Afrin.
Bon, là, c'est passé 21h. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on passe une demi-heure pour discuter autour de ces questions de... En plus, il y a la manif demain, donc tout faire le lien avec ça pendant une demi-heure. Dans une demi-heure, on arrête et puis on parle ensuite d'Afrine pendant un moment. Ouais. Pendant un quart d'heure et quelques, si ça va. Et ensuite, juste quelques minutes pour voir si on continue ou pas et de quelle manière. Ça vous va comme manière de fonctionner? Ok. Alors... Alors moi j'ai quelques questions. Cette initiative, toi tu es un spécialiste des initiatives, ça se passe comment quand tu lances une initiative? Tu en discutes, tu réfléchis comme tu fais maintenant, tu trouves des gens autour de toi, tu n'es jamais seul, mais ça se passe comment?
Ouais, je crois qu'une initiative, ça se mûrit. Et puis ça se lance quand la situation est mûre. C'est Victor Hugo qui disait que rien n'est plus fort que l'idée qui arrive
au bon moment.
Voilà. Et très souvent, c'était comme la dernière votation qu'on n'a malheureusement pas gagnée ou à demi gagnée sur les fêtes de Genève. Très souvent, c'est des thèmes qui mûrissent. Il y a des gens qui prennent conscience de certains problèmes et puis on en parle et puis il y a un groupe qui se forme, etc. Puis des fois, ça mûrit pendant des années et puis tout d'un coup, ça se concrétise parce que la situation le permet ou l'exige. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé avec cette réflexion de quelques amis qui datent d'au moins 4-5 ans. Et puis là, vraiment, on a assisté, j'aimerais pas non plus monopoliser la parole, là vraiment, il y a eu l'émergence publique de cette thématique sous un angle bien particulier, à la base avec le mouvement contre l'enlaidissement de la ville mené essentiellement par la professeure Laila El-Wakil et un petit groupe de gens. Et puis, bon, là, on a pris contact avec eux. Et puis, au fil des discussions, il est apparu qu'effectivement, ça ne servait à rien de lutter contre l'enlaidissement de la ville si on ne mettait pas en question les causes mêmes qui procédaient à cet enlaidissement. Et puis, des contacts ont été pris avec d'autres groupes, dont celui que je viens de nommer, de Patrice Muni, avec aussi Willy Cretny dedans, etc., qui va se présenter en candidat hors parti au Conseil d'État, avec un programme qui n'est pas inintéressant. Mais alors là, je ne fais pas du tout de la pub pour les politiciens, parce que justement, j'ai toujours essayé d'éviter de faire les choses avec les politiciens ou d'être influencé par les politiciens.
Mais enfin, il est hors parti.
Voilà, il est hors parti, mais enfin, c'est quand même... Voilà, bref. Alors, c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a plusieurs groupes autour de certaines personnes, autour de certaines thématiques qui convergent vers cette question liée à la densification, à la surpopulation artificielle de Genève.
On voit dans certaines... Moi, j'ai envie de témoigner un truc à Laura Scopo. On voit... Moi, je suis bibliothécaire, quand même. Et dans les... Ça fait 6-7 ans maintenant, à peu près. Et on voit les populations effectivement changer. Les usagères et les usagers, les enfants qui viennent. On voit, par exemple, de plus en plus de personnes qui sont uniquement anglophones. Donc, de plus en plus de personnes qui sont engagées dorénavant dans les bibliothèques. On va leur demander, évidemment, de toucher un petit peu leur bille en anglais. Parce qu'effectivement, il y a des personnes... On voit une population qui est différente dans le sens où c'est moins des parents mais plus des nounous. Parce qu'on voit que c'est une classe sociale un petit peu plus différente. Et puis des gens, effectivement, qui sont là pour un temps et pas plus loin. Parce que typiquement, les internationaux ont des mandats de 5 ans ou de quelques années. Et du coup, on les voit moins s'impliquer, en tout cas à un degré différent, dans certaines choses. Parce qu'ils savent que de toute façon... Voilà, ils ne vont pas ils vont partir. Donc, nous, en tout cas, depuis quelque temps, on sent que c'est ce changement de truc, sans compter, effectivement, que, évidemment, il y a de plus en plus d'enfants qui affluent et que les moyens, eux, ne sont évidemment en aucune manière mis à niveau. Et que donc, il y a des conditions de travail qui, automatiquement, mécaniquement, se dégradent, puisque si on a 10 ou 20 enfants, vous imaginez bien que ce n'est pas la même chose.
Moi, j'ai une question. Donc, on en parle ici, et c'est fort intéressant. Est-ce qu'il y aurait moyen de se dire que ce sera un atelier à développer pour que il y ait plus de visibilité et puis qu'on fasse chacun une part de boulot là-dedans. Parce que je pense que même si on s'engage avec des petits engagements, c'est toujours des petits bras qui sont nécessaires. Et donc j'aimerais bien entendre ce que tu as à dire au niveau de l'engagement et des besoins que tu pourrais avoir.
Très bien. Personne. J'aimerais juste apporter une précision pour ceux qui n'auraient peut-être pas lu le... On dit en première phrase, pour préserver la qualité de vie, l'environnement et la santé de tous les habitants de Genève, quelle que soit leur origine et leur situation socio-économique. Alors, je tenais simplement à rappeler ça pour qu'on ne nous dise pas, oui, puis alors les gens qui... les réfugiés, etc., qui d'ailleurs se comptent par quelques centaines, ça n'a rien à voir avec les milliers de... d'émigrés qui viennent pour travailler avec les multinationales.
Alors, juste moi j'ai une question, c'est effectivement c'est 500 000 Genève ça suffit, hein, un truc comme
oui,
ça.
C'est un titre un peu provocateur.
Oui, mais au moins on comprend de quoi il s'agit. Quoi.
Parce qu'on arrive bientôt à 500 000.
Ouais.
Alors ça c'est une chose.
Mais comment est-ce qu'on peut, est-ce qu'il existe un lieu qui a réussi à stopper, à dire...
Il existe une commune.
Matériellement empêcher.
Alors j'aurais plusieurs choses à dire, il ne faut pas que je perde le fil. Il existe une commune en Suisse alémanique, dans le canton de Lucerne, qui a réussi à stopper les citoyens, un groupe de citoyens hors parti a lancé une initiative pour que la commune limite sa croissance en termes d'habitants, qui était aussi une croissance artificielle. Hein. Des gens qui venaient s'installer dans cette commune parce qu'il y avait à cause de l'attractivité fiscale. Donc ils ont réussi, et donc ça peut se faire. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on va pas... Il y a déjà eu un projet de... On a fait un projet de texte d'initiative qui n'a pas passé la rampe devant une juriste compétente parce que le droit supérieur, c'est-à-dire le droit fédéral et la constitution fédérale, les accords internationaux permettent pas qu'on fasse un texte cantonal allant dans ce sens-là. En tout cas, on est en train de travailler là-dessus, enfin les juristes plus exactement, donc ça va pas être quelque chose de très facile au niveau cantonal. Par contre, parmi les groupes que j'ai cités qui ont commencé à se manifester, il y a un petit groupe qui travaille sur une initiative cantonale visant à rendre, à donner aux communes le droit de se prononcer sur les PLQ et le plan de développement, etc. Ce qui n'est pas le cas à Genève, contrairement à quasi toutes les communes suisses ont un droit de regard sur le développement de leur commune, ce qui n'est pas le cas à Genève. Alors, il y a un groupe qui y travaille, qui est notamment mené par l'association Pic Vert. Bon, c'est des propriétaires de villas, mais enfin, d'autres groupes qui n'ont rien à voir avec les propriétaires de villas, on dit qu'ils seraient prêts à s'y joindre, pour autant que le texte leur soit aussi soumis, ou nous soit soumis, que ce ne soit pas quelque chose qui profite uniquement aux propriétaires de villas. Ouais. Je dois dire que j'observe une grande ouverture d'esprit à gauche. Moi, je suis locataire d'un tout petit 3 pièces, puis je pense que la plupart d'entre vous sont locataires. Parmi les gens qui sont prêts à soutenir la démarche de Pic Vert, qui sera peut-être plus seulement la leur, mais celle de tous, il y a des gens de gauche qui sont dans des situations économiques peut-être relativement fragiles, mais qui estiment que, de toute façon, les villas, c'est des espaces où il y a peu de densification, où il y a de la verdure, des poumons de verdure, où la nature peut s'épanouir. Il n'y a pas de raison qu'on construise des barres d'immeubles à la place des villas. Voilà. Il y a des groupes qui sont constitués autour de plusieurs thématiques concernant justement le thème dont on parle aujourd'hui. Il y a notamment un groupe qui s'est formé et qui vient de se former. Ça, c'est en train de se faire, ça, c'est tout neuf, hein, et qui veut lancer une initiative pour contrer, je dirais, la pollution due au trafic. C'est pas les verts. C'est une initiative qui a qui vise un but très concret, c'est la diminution des particules fines en ville. Ça sous-entend avant tout et d'une manière très précise, parce que si c'est trop vaste, les gens ne comprennent pas et c'est très difficile à mettre en œuvre. Mais quand on parle de particules fines, ça vise les moteurs diesel, ça vise les moteurs de temps et ça vise aussi les barbecues dans les parcs. Alors, je m'explique brièvement. Les barbecues dans les parcs, notamment au parc des eaux vives à côté de la Seine et la Fitzgerald, la ville a installé 4 ou 5 ou 6 barbecues. Quand vous avez 3000 personnes pour un concert et puis 5 barbecues qui fonctionnent en même temps, la fumée des barbecues, c'est exactement la même que si vous mettez le nez derrière un pot d'échappement de moteur diesel. C'est des particules fines. C'est le résidu de la combustion de corps gras. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucune différence. Alors, moi, ça m'est arrivé de voir à des concerts où il y avait, je sais pas, 3000 personnes. C'était bondé. Puis les gens étaient dans un nuage de particules fines, puis d'ailleurs les feux que font les scouts et tout ça, les feux qu'on fait à la montagne, c'est tout aussi toxique d'ailleurs. Je sais pas, est-ce que j'ai répondu à ta question, parce que je perds un peu le fil de...
Alors ouais, la question c'était de savoir si tu voudrais en faire un atelier ici ou ailleurs, et quels seraient tes besoins de...
Alors, c'est pas mes besoins.
Ouais, non, mais je dis les besoins, voilà. Bien sûr, mais je le formule comme ça, c'est voilà. Pas tout à fait juste. Mm-hmm. Mais peut-être qu'on rejoindrait, bien sûr, aussi un groupe, si c'est un groupe.
Alors, il y a une tentative, maintenant on peut dire qu'il y a 5 ou 6 groupes différents, et il y a la tentative d'un petit groupe de vouloir, il y a eu cette tentative, ça a échoué, de vouloir chapeauter un peu tous ceux qui sont dans la même lutte. Notre point de vue, c'est qu'il faut absolument pas chapeauter tous ces mouvements. D'abord, ça servira à rien. Ça fera naître des dissensions au sein d'une même organisation. Et vis-à-vis du public et des autorités, on est bien plus fort s'il y a 5 ou 6 groupes de tendances différentes qui représentent des gens différents, des problématiques différentes, que s'il y a un seul groupe. Donc... On est plusieurs à avoir stoppé ces velléités de vouloir chapeauter un peu tout ça. Et je pense que dans cette mosaïque de groupes, on pourrait parfaitement nous-mêmes avoir une démarche propre et qui rejoigne à un moment ou un autre tel ou tel groupe, ou avoir des contacts, parce que tous ces groupes sont plus ou moins en contact. Ça commence un petit peu à s'organiser. Et je pense que plus on est, plus ce sera utile. Puis je pense que la vision d'un groupe comme le nôtre ici, c'est une vision peut-être un peu différente de d'autres groupes. Mais il y a un esprit très libertaire aussi dans certains groupes, notamment dans le groupe avec Patrice Muni, etc. Voilà, je pense que ce serait très utile si ça intéresse les gens, puis c'est vraiment d'actualité, quoi.
En fait, ce qu'il faudrait aussi mieux connaître, c'est la communauté anglo-saxonne à Genève. Donc il y a effectivement les employés des multinationales qui sont en fait quasiment expédiés ici. Ils n'ont souvent pas le choix. C'est soit vous allez à Genève dans 3 mois ou via et tout. Donc là il y a beaucoup de ces expats qui sont assez révoltés contre ces impositions, quoi, et qui préféraient de loin rester chez eux, quoi, de toute façon. Et il y a une catégorie aussi qui sont...
Donc on leur rendrait service, c'est ça que tu veux dire?
Non, mais disons...
Justement,
c'est-à-dire, il faudrait déjà aussi les contacter et de voir comment eux peuvent lutter à l'intérieur de leur multinationale contre ces déplacements incessants. Parce qu'il y en a qui, tous les 5-6 ans, on leur dit « Demain, vous allez à Genève, dans 5 ans, hop, Melbourne ou je ne sais pas où. » Et là, c'est des conditions atroces aussi. Ils n'ont pas le choix. Et il y a toute une catégorie, d'ailleurs, qui se retrouve aussi dans les manifestations du 1er mai, qui sont des stagiaires non payés des organisations internationales. Mmh. Alors déjà là, c'est dégueulasse. Il n'y a pas de raison que, bon, qu'ils fassent 3 semaines à l'essai sans être payés, ok, mais ensuite des mois et des mois, voire des années sans être payés, c'est vraiment une injustice flagrante. Donc là, il y aurait aussi des liens à faire pour des luttes en commun. Et comme je disais, la plupart, ils préféreraient certainement, comme beaucoup de migrants, être chez eux si les conditions sont potables. Quoi. Et il y a des organisations comme Expat, aussi expat.com, qui se réunissent à Pell Expo une fois par année. Et ça serait peut-être intéressant de les contacter, de dire voilà, enfin, nous on. Parce que là, certainement qu'une partie d'entre eux peuvent comprendre aussi qu'à un certain moment, il y a des limites.
Bon, j'aimerais juste dire, la plupart de ces gens, alors évidemment, je pense que tu parles des employés de l'ONU qui ne sont pas payés, c'est une réalité, mais la plupart de ces employés multinationales, ils sont très bien payés, ils ont un statut socio-économique qui est très favorable. Voilà, donc ce qui leur permet aussi de payer très cher des loyers pour qui sont pas à la portée des jeunes voix. Et voilà.
Ouais, mais là, justement, c'est tout le jeu des spéculateurs ici.
Ouais, bien sûr.
Effectivement, moi, comme tapissier décorateur, j'ai des fois fait des installations dans des maisons où ils parlaient des loyers qu'ils payaient, effectivement, dans les 10 000 balles, 15 000 balles, etc. Mm-hmm. Tout ça fait monter les prix des loyers à Genève aussi. Ça, c'est aussi une des incidences. Et puis là, c'est pas seulement la faute de ces étrangers, c'est la faute des spéculateurs, surtout.
Oui, mais l'un et l'autre, parce que le spéculateur, ouais, il va pousser en fonction du pouvoir d'achat de celui qu'il a en face, quoi. Donc s'il voit qu'effectivement, ces gens qui viennent des multinationales ont
tout à fait.
Ouais, ils vont adapter le loyer.
Mais là, il faut pas nécessairement viser que les employés, mais aussi les multinationales en tant que telles, c'est eux qui payent les loyers.
J'ai oublié aussi de dire qu'il y a un groupe de travail qui s'est créé pour lutter contre justement la spéculation, parce qu'il y a énormément, dans certains quartiers, notamment à Champel, d'appartements de luxe qui sont vides, qui sont simplement qui ont été achetés par de riches étrangers, beaucoup de Russes d'ailleurs, comme placement ou pour spéculer. Et donc il y a un groupe de travail qui s'est proposé de voir sur le plan légal ce qu'on peut faire pour remettre sur le marché ces appartements inoccupés par rapport à l'Alex Weber, par exemple.
Mais
s'ils
ont acheté, ça, ils leur appartiennent. Tu ne peux pas les remettre sur le marché.
Et pas seulement ça, c'est aussi voir ce qu'on peut faire à partir des locaux commerciaux vides, parce qu'on a un record de, je ne sais pas, c'est 30 ou 40 000 mètres carrés de locaux commerciaux vides, les retransformer en logement. Ouais. Alors voilà, donc il y a un petit groupe qui s'est proposé de travailler sur ce thème-là. Mais je te rappelle simplement que dans certains pays, en Hollande par exemple, un appartement qui est vide depuis plus de 3 ou 4 mois, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas maintenant, il est réquisitionné, puis on y met des gens dedans.
Mmh. Oui, mais un appartement qui appartient...
Ouais.
C'est une question de volonté politique.
Oui, on met des gens dedans, mais il continue d'appartenir à la personne à qui il appartient.
Oui, mais il est occupé.
Mais il n'y a plus de spéculation.
Voilà.
Ouais. Coupeur. C'est
assez délicat comme démarche ou comme initiative, parce que moi, il y a beaucoup de choses qui me déplaisent à Genève actuellement, mais cette démarche, comme tu l'as dit, il y a vraiment toutes sortes de milieux différents qui se rejoignent, mais qui n'ont vraiment pas tous la même vision ou la même vision de ce que devrait devenir Genève. Cette initiative peut vite devenir exclusive, c'est-à-dire comment on ferme les portes, le renfermement sur soi, c'est pas ce que je vise non plus pour Genève.
Non, il s'agit, c'est une initiative, enfin, pour le moment
c'est une idée, un
sujet de réflexion, une réflexion que mènent différents groupes avec différentes sensibilités qui, ils sont apparemment tous d'accord sur le fait qu'on ne peut pas continuer à densifier et à amener des gens à bourrer la ville avec des gens à faire en sorte que nos infrastructures soient complètement saturées, etc. Voilà, c'est ça. C'est, soit on fait quelque chose, soit on ne fait rien.
Bien pousser les jeunes voies d'or.
Éventuellement, oui.
C'est ce qui arrive maintenant.
Ouais. Alors, encore une fois, il s'agit... Si cette croissance était une croissance naturelle, une croissance basée sur les naissances des citoyens genevois ou des habitants de Genève, il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit d'une logique qui consiste à faire venir... Et le premier qui a commencé avec ça, c'était un écolo, c'était David Hiller, qui a fait venir les hedge funds à Genève. Donc les fonds les plus spéculatifs, ce qu'il y a de moins moral dans l'économie, qui a commencé à leur octroyer des conditions extrêmement favorables. Et bon, ben, on voit ce que fait Auger, lui aussi bétonné, etc. Parce qu'on est dans cette logique d'attirer ces multinationales avec des tarifs fiscaux qui sont extrêmement bas.
Ouais, déjà là, il faut
l'utiliser. Ouais, voilà. Alors, ça c'est un point concret.
Pendant les écolos, tant qu'il y a encore des arbres.
Oui, bah, c'est une très bonne idée.
Ça dit quoi?
Pendant les écolos, tant qu'il reste encore des arbres.
C'est comment des écolos politiques, c'est
ouais.
Pas...
Ouais, non, mais c'est
tu as bien compris.
Non, mais c'est aussi en lien avec la suite de la RIE 3,
oui, tout à fait. Et il y a des gens qui travaillent là-dessus aussi.
Disons que moi, ça me parle assez, tout ce que tu me racontes, ça pourrait alimenter... Je reviens tout le temps sur ça ces derniers temps. On veut démarrer un jeu qui s'appelle 36 photos pour la révolution du sourire. Et ça va être une plateforme internet qui va être une histoire un peu comme à la Lumio, comme ça. C'est-à-dire que n'importe qui pourra poster une photo prise n'importe où et puis commenter cette photo. Puis là, elle explique un peu le questionnement de ce qui l'a mené à prendre cette photo. Et du coup, les gens peuvent répondre à tout ça. Et les discussions, elles peuvent aller dans tous les sens. Et donc, à partir de là, les différentes sensibilités qui seraient celles qui tournent autour de ton sujet, elles viendraient sur une ou plusieurs photos pouvoir avoir de la visibilité, et puis du débat, de l'échange, et puis... Le même principe que Lumio à la longue, à partir du moment que tu as du questionnement, le questionnement va aussi se dire mais il y a du changement, c'était comme ça avant, c'est comme ça maintenant, et puis qu'est-ce qu'on veut demain? Et puis à partir de là, pourquoi on dit que c'est un jeu? Parce que les gens ils vont commencer au travers de ces discussions à créer des missions de jeu qui sont la création de projets. Peut-être ton initiative par exemple. À dire mais pourquoi on ne ferait pas une initiative? Puis après, tu peux avoir le ressenti du nombre de personnes qui jouent le jeu de cette initiative et qui vont aussi la construire parce que tu vas échanger au niveau du contenu de l'initiative.
C'était le but de cette feuille.
Oui.
Exactement ça.
Ça nourrit mon histoire à moi et pourquoi on jouerait pas le jeu ensemble. Mais
oui. Alors, il y a plusieurs groupes affinitaires. Il y a plusieurs groupes affinitaires. C'est des groupes qui ne sont pas formellement constitués, mais il y a des affinités en termes d'éthique ou de pensée. Et puis, il y a des affinités en termes de but.
Moi, je trouve ça extrêmement génial.
Ouais, alors, quelquefois, il y a les deux ensemble. Des gens qui ont la même pensée, qui sont de la même famille de pensée, plutôt, et qui se réunissent sur un même but.
Et puis l'histoire de ce jeu, c'est justement d'éviter de chapeauter quoi que ce soit. Il y a personne qui va diriger le truc. C'est les gens qui jouent, qui dirigent le jeu et qui fixent les règles. Donc il n'y a pas de règles au départ.
Je me rappelle juste qu'on s'est donné une demi-heure. Il nous reste 3 minutes sur ce sujet-là. Quelqu'un a encore quelque chose à dire ou suggestion, proposition?
Alors, votre initiative, elle part sur quoi? Sur faire, par exemple, un référendum ou...
Alors, en fait, dans l'immédiat, justement, les gens qui sont réunis ont tous lu cette feuille. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on décide pas demain de faire une initiative. C'est quelque chose, un projet qui mûrit, qui mûrit par la réflexion des uns des autres, les critiques des uns des autres. Et puis après, on verra ce qui est possible de faire en fonction du cadre légal. Et notamment, un des constats qui a été fait par l'ensemble de ces groupes, on peut dire que c'est que, sans attendre qu'on lance une initiative, pour autant que ce soit possible, j'ai dit que j'en doutais un peu, une initiative qui vise à limiter la population, ça risque d'être très difficile ou voire impossible. La stratégie, dans un premier temps, pour ne pas rester à attendre, c'est de faire mûrir d'autres projets qui vont dans le même sens, comme cette question des logements vides, la question de la pollution aux particules fines, etc., etc. Des projets qui vont, en quelque sorte, globalement amener un peu au même résultat.
Comment peut-on rester au courant de l'évolution
en s'unissant?
Ça pourrait bien aller par sur l'Omio.
Oui, ça peut aller sur l'Omio, mais ça sera encore beaucoup plus génial dans le 36 photos, parce que le 36 photos, il sera beaucoup plus visible encore.
Jean, il vient régulièrement.
Ouais.
Donc ceux qui ne vont pas sur l'Omio...
Ouais. Là, ça sera moins court.
Mais ça tourne pas autour de moi.
Non, mais
en tout cas, je ne veux pas que ce soit comme ça.
Non, mais une notion de l'habitat, de qui habite comment... C'est vrai que ça pourrait être extrêmement intéressant de notre point de vue ici, quoi, de produire une réflexion par rapport à ça.
Ouais.
Parce qu'il y a vraiment de grands enjeux. Les tiny house aussi, on ne l'a pas abordé ça, mais oui, non. Les mini-maisons
sur roulotte.
Tous ces habitats alternatifs, mobiles. Il y a beaucoup de notions qu'on pourra questionner ici.
Ce que j'allais proposer, je ne pensais pas parler de ça ce soir, mais. Ce que je voulais proposer aux autres groupes, pour rester dans le concret et dans les choses actives, c'était de pondre, à partir de cette mini-réflexion, pondre un texte où on implémente tous les chapitres qui figurent là-dedans, on explique dans un langage très simple, accessible à tout le monde, qu'on en fasse éventuellement une pétition. Pour que les gens prennent conscience, quand je dis les gens, c'est la population, les citoyens, prennent conscience d'un sujet, un des outils les plus efficaces, c'est la pétition. Ça ne vaut rien d'autre, la pétition, parce que de toute façon, légalement, ça n'a pas force de loi, donc tu donnes ça aux autorités, ils foutent tout ça à la poubelle. Ça n'a aucune valeur sur ce plan-là. Par contre, c'est un instrument extrêmement intéressant pour informer et faire prendre conscience aux gens. Et quand tu installes des stands devant les Migros, dans la ville, et puis que tu fais signer les gens et que tu leur donnes une feuille, ça les informe et ça leur fait prendre conscience des choses. Puis ça contribue à faire mûrir la chose. Parce que là, il faut faire mûrir la question.
Mais ça va faire bizarre de me retrouver... en alliance avec Pivert, par exemple.
Mais non, mais pas en alliance.
Avant que vous disiez
mais
ça. Jamais j'aurais pensé qu'au jour, je me retrouverais...
Mais chacun choisit avec qui il veut travailler, dans quel but.
Oui, oui.
Ce que je disais simplement, c'est qu'il y a des groupes différents qui se rencontrent sur un dénominateur commun extrêmement étroit. On n'est pas du tout obligé de travailler avec eux si ça n'intéresse pas. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire par rapport à donner aux communes genevoises, comme dans le reste de la Suisse, leur pouvoir, c'est extrêmement intéressant. Et encore une fois, d'autres groupes qui ne partagent pas du tout ni la situation, ni le point de vue, je dirais, éthique ou politique de Pigvert, sont prêts à se joindre à cette démarche, pour autant justement qu'elle puisse intéresser tout le monde et qu'elle ne soit pas uniquement centrée sur les questions liées aux intérêts de Pigvert.
Pigvert, c'est une association de propriétaires de villas. Qui défend, comment on peut dire ça, qui défend les intérêts des propriétaires de villas.
Exactement.
Voilà.
J'irai voir un peu sur Internet.
Ouais. Pour bien. Ça, il faudrait pouvoir relancer les associations de quartier. Parce qu'il y en a. Enfin, on avait réussi à relancer l'association de quartier de la Jonction, il y a 3 ans, mais bon, je pense pas.
Mais je crois qu'elle a repris, là, non?
Elle a repris, oui. Mais il faudrait relancer dans tous les quartiers. Dans les années 80, au début des années 80, il y avait 10 associations de quartiers. Et dans la fédération des associations de quartiers, on avait la capacité de mobiliser 1 millier de personnes là, quand on avait lancé les squats. Et là, pour des mouvements de ce type, c'est quand même une base essentielle. C'est une base de proximité aussi pour les gens.
Alors, au Grotte, il y en a une qui naît, qui en parle. Voilà, donc ça commence, ça surgit tout doucement. Autour, évidemment, de ce projet de la tour qui a été balayé à l'époque. Et on voit bien qu'il y a quand même des velléités encore de revenir à la charge. Donc on verra, mais quoi qu'il en soit, moi je me tiendrai au courant, puis ben, je vous dirai, pour le moment c'est encore un peu une ébauche, c'est un peu Préambule qui coordonne tout ça, parce que eux-mêmes, Préambule, vous le savez, c'est une maison de quartier de rue, qui n'a pas de locaux, et là il s'agirait justement, dans un quartier qui est parmi les denses quartiers du centre-ville, hein, les Grottes, d'être effectivement très attentif à la gentrification et à la densification du territoire, quoi. Ils vont remettre une tour en plus dans un quartier qui est déjà...
Et Préambule, là, ils vont lancer une fête, là. C'est quelle date?
Voilà, le 1, 2, 3 juin, il y aura la grande fête du quartier où on sera présent aussi. Mais on en reparlera un petit peu plus.
Parfait. Merci beaucoup, Jean. Tu nous tiens au courant.
Oui, bien sûr.
Même si ça c'est pas centré sur toi, si tu peux nous transmettre les choses, c'est parfait.
D'ailleurs, je ne sais pas, éventuellement, est-ce qu'il y a des gens qui seraient intéressés à participer à d'autres réunions avec les groupes que j'ai mentionnés Alors moi je fonctionne, je ne sais rien faire sur internet, j'ai besoin de quelqu'un pour lire mes mails, donc je fonctionne par téléphone. Alors je ne sais pas si
on c'est... On sait encore faire aussi.
Vous savez faire encore, c'est pas complètement démodé. D'accord.
Moi je suis intéressé par un truc radio, alors une interview, un machin, une table ronde, tout comme ça. Après participer aux réunions, il y a trop déjà.
Non, non, c'est juste une demande pour ceux qui s'intéresseraient.
Moi, je suis intéressé de te...
Bah, j'ai ton téléphone, Olivier.
De te voir arriver. On organise un hackathon pendant le mois d'avril avec un barcamp. Et puis, au barcamp, je pense que c'est un sujet qui nous intéresserait assez fortement parce qu'on va parler, bien sûr, de biens communs et de choses comme ça. Et là, typiquement, on est dans un cas de figure de biens communs. Et ouais, il y aurait de la place pour venir en débattre. Et puis faire des tables, on va faire plusieurs tables rondes qui vont démarrer en atelier. Donc là, il y a de quoi faire aussi.
C'est
13, 14, ça va faire plutôt 14 avril. 14 et 15 avril, on va donner les résultats de ce qui s'est passé pendant toute la période d'hackathon. C'est un festival Open Geneva des innovations sociales, économiques et je ne sais pas quoi. Ouais.
Solidaire.
Et solidaire. Ouais, non, c'est même pas ça. Alors, okay. Ça a lieu à Genève, partout à Genève. Il y a plein de petits hackathons. Nous, on en fait un.
Quand tu dis ça a lieu partout, c'est où partout c'est...
Alors, n'importe qui pouvait se présenter pour faire un hackathon. Et je pense qu'il va y en avoir une quinzaine dans plein de lieux. Ça va bientôt être publié ces prochains jours. Donc, voilà.
Je propose que sur Vernier. Tu envoies l'information à ceux qui veulent. On s'arrête là pour ce sujet-là. Ouais. Et puis, on voulait aussi parler d'une chose qui nous déprime plusieurs d'entre nous. Voilà, est-ce que peut-être est le mieux placé pour en parler
Oui,
si je veux bien. Je voudrais dire quelque chose par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, la marche. Au départ, la marche, elle devait être entre...
Alors, il y a eu une marche, donc il y a une quinzaine de jours où Alexandre et moi...
Mais ça, elle a vraiment été prévenue. Elle a été mal communiquée.
Ça a été très mal communiqué.
Voilà. Alors, la marche a eu lieu donc, entre Lausanne et Genève en plusieurs étapes. Ouais. Mais voilà, c'est précisément le sujet que je voulais aborder. C'est que je constate que, de toute façon, on savait déjà depuis 2 ans, à peu près, parce qu'il y a eu donc rupture des négociations entre le gouvernement turc et le PKK, il y a déjà plus, c'était il y a 3 ou 4, trois ans et demi. Et on savait que le Rojava allait être attaqué. On ne savait pas si l'attaque allait porter sur Kobané, qui est juste à tout près de la frontière turque, ou Afrin. Mais ce que je constate, c'est que, encore une fois, et là, c'est ce qui m'inquiète aussi, je fais le parallèle avec les Bosniaques, parce que je connais les Bosniaques en Bosnie, et ceux de la diaspora. Et je constate le même problème dans la diaspora kurde ici et la diaspora bosniaque ici, c'est qu'ils sont complètement repliés sur eux-mêmes et ils n'ont fait pendant ces 2 ans aucun travail de préparation par rapport à l'attaque qui pourrait survenir et qui est survenue donc, contre Afrin le 20 janvier.
Qu'est-ce que tu penses qu'ils auraient pu faire ?
Ben, déjà, au préalable, disons, ça demande un travail sur 2 ans. De contacter tous les militants, contacter les mouvements, solidarité, discuter même avec le PS et d'autres mouvements. Créer des alliances. Parce qu'un des buts, c'est... d'ailleurs, ils constatent, c'est que les gouvernements, ils foutent rien, quoi. Ils font juste des protestations, mais ça s'arrête là. Et ils ne feront jamais rien, d'ailleurs, dans aucun cas... S'il n'y a pas un mouvement social fort, et là on l'avait bien compris à l'époque de la guerre du Vietnam, où bon, ça avait pris un certain temps, mais au final, le gouvernement américain, ben, ils ont basté, parce qu'il y avait quand même un mouvement aussi bien aux États-Unis qu'en Europe et dans d'autres pays qui était très fort. Et donc là, c'est une leçon à retenir, mais apparemment, les Kurdes d'ici, comme les Bosniaques, n'ont pas compris ça. Et une fois qu'ils ont résolu leur problème personnel, je dirais, de statut de réfugié, hop, ils se replient entre eux, quoi. Et ça, c'est gravissime. Ça veut dire qu'ils abandonnent leurs compatriotes au Rojava et tout. Et personnellement, ça m'inquiète beaucoup, cette situation. Et du coup, vu qu'ils n'ont rien préparé, ils n'ont pas préparé aussi la communication. Parce que quand ils font des manifestations, nous, on est avisé au mieux 24 heures à l'avance, ou même quelques heures. Par exemple, même le jour pour rejoindre le cortège, on ne savait pas si c'était... Il fallait les rejoindre à Copé ou plus loin, ou à Versoix, quoi. Au final, c'était à Versoix, quoi. Et là, tout ça, ça indique qu'il n'y a pas eu un travail de réflexion et de préparation d'alliance, comme tu dis. Et ils n'ont pas compris que s'ils manifestent contre eux, contre Kurdes, ça a beaucoup moins de poids que s'il y aurait des gens du différents pays, s'il y aurait un millier de Genevois à la manifestation, ça aurait beaucoup plus de poids là, que ce qu'on était. On était peut-être une dizaine à peine.
Alors, il y avait internationaux, mais c'était des personnes qui avaient des contacts très forts avec les Kurdes.
Il y avait des Catalans.
Des Catalans et autres, des Genevois, on était deux.
Voilà, ouais, on était deux.
Parce que, alors qu'on aurait bien, on aurait pu être beaucoup plus, mais ouais. Voilà. Moi, j'ai une autre chose que je regrette, c'est qu'il y a eu une séance qui a été mise en place le soir même de la marche à Genève. Et puis, on y est allé. Olivier était présent, toi, moi, deux, trois autres personnes. On a tous donné nos coordonnées à des Genevois. Il y a aussi un groupe qui s'est organisé, qui s'appelle la plateforme Remonde et autres. Donc, nos coordonnées ont circulé. Nous, on a cru comprendre qu'on allait nous contacter prochainement. Parce qu'on a envie de faire des choses. Quand on voit la situation là-bas, c'est déprimant. Moi, je n'aime pas déprimer. J'ai envie de me sentir utile. Mais on attend. Personne ne prend contact avec nous. Donc, c'est encore pire que... C'est la pire des situations. C'est-à-dire, tu attends sur les autres pour qu'ils te contactent. Enfin, voilà. C'est assez frustrant comme situation. Et finalement, je crois qu'on est nombreux à vouloir faire des choses. Mais on ne sait pas comment, par quel bout prendre, enfin c'est mon cas, moi je ne sais pas par quel bout prendre les choses, j'ai aussi le travail, il y a tout le reste, mais comment on peut s'organiser alors qu'on a des liens avec les Kurdes eux-mêmes, mais qui nous transmettent des informations d'une manière non adaptée, avec laquelle on ne peut rien faire.
Puis cette plateforme, il faut dire, il y avait juste un texte, mais il n'y avait aucune signature, aucune adresse, aucun mail.
Comment on peut, on ne sait pas qui contacter.
Mais est-ce que ce ne serait pas bien de discuter en leur présence, quoi? Voilà, on se dit les choses entre nous et puis ils devraient les entendre. Et si, peut-être qu'à partir de là.
Donc nos amis kurdes, on leur a déjà dit. On leur a dit.
Et puis qu'est-ce qui.
Il y avait un kurde qui était venu.
Notre ami Ramazan est souvent ici. Il est conscient de cela. On lui le dit. Je crois que lui, il en souffre aussi. Ouais. C'est une manière de fonctionnement qui est indépendante. On n'arrive pas tellement de mettre le doigt dessus. Ils n'ont pas cette culture de créer un mouvement de solidarité comme certaines.
Les femmes avec qui vous aviez fait une.
Oui, mais il n'y a pas eu de suite.
Vous n'avez pas rapproché pour refaire quelque chose.
Oui, la balle est aussi de notre camp. Il faudrait qu'on revoie avec elle.
Oui, parce que là, il y avait la fête et tout ça, ça quand même.
Je rejoins ce que je disais avec aussi les difficultés qu'on a dans le temps d'organiser tout ça. Mais ça, c'est une des. Effectivement, soyons positifs, il faudrait qu'on reprenne compte. Alors, c'est peut-être dans l'étape maintenant, si on a envie de faire quelque chose. Peut-être on a des coordonnées avec des dames qui sont d'accord. On a déjà organisé dans le passé, pour ceux qui dans le passé, il y a peut-être 3 ans en arrière ou 2 ans en arrière, on avait organisé une séance, un repas pour trouver de l'argent pour la reconstruction de Kobané. Et c'était avec des dames kurdes, on s'était arrangé, on a fait de la cuisine, on a fait venir du monde, on avait fait... une cagnotte, et on avait récolté 1000 à 2000 francs ce jour-là, et on avait eu une soixantaine de personnes, il y avait eu une conférence, donc ce genre de choses on sait faire, peut-être ce serait quelque chose à refaire. Et là les dames nous ont dit qu'ils étaient prêts à nous aider. On a aussi la première soirée qu'on a fait ici à Les Signoles, c'était avec les Kurdes aussi, sur le lien entre l'Espagne 36 et puis le Kurdistan contemporain. Et on avait eu une soixantaine de personnes, et un des monsieur Kurd nous avait dit, mais si vous refaites quelque chose, moi je vous fais arranger, et puis pas de problème. Donc on aurait possibilité d'agir. Je crois que la leçon, c'est qu'il ne faut plus compter. Il ne faut pas compter sur les liens avec ces autres. Il faut qu'on compte un peu sur nos forces, c'est ça que je veux dire. Avec les dames, les gens qu'on connaît. Voilà.
Il y a 2-3 ans, je crois, il y a 3 ans, il y a eu une grande fête kurde aux Avanchets. Et c'est là que j'avais connu Ramazan. Et il y avait un groupe de copains et copines libertaires qui avaient un stand au sein de la fête et qui s'était constitué comme groupe de soutien aux Kurdes. Et je ne sais pas, alors, est-ce que quelqu'un les connaît, Ramazan? Je crois que Daniel devrait les connaître, en connaître quelques-uns. Ouais. Ramazan doit les connaître. Je ne sais pas, la première chose, ce serait peut-être de voir un petit peu comment on peut tous ensemble organiser quelque chose. On sera plus fort. Eux, ils ont apparemment, depuis plus longtemps que nous, cette préoccupation de soutien aux Kurdes. Seulement, moi, je ne les connais pas. Alors... il faudrait peut-être qu'on demande à Daniel ou à Ramazan qui ils sont, et puis voir avec eux ce qu'on peut faire en commun.
Peut-être que nous ça nous déprime, et pourtant on n'a pas de lien affectif. Peut-être que eux, ils sont plus le moral dans les chaussettes, et que du coup ils arrivent moins à mobiliser, à venir nous demander. Que si nous on leur dit, nous on est disposés à faire quelque chose avec vous, ça peut leur donner du courage pour... se lancer.
Je crois qu'il faut aller à même l'étape suivante, c'est que réfléchir à une proposition de programme. Donc, on ne va pas décider ce soir, mais ce qu'on peut décider, c'est que moi, je vais voir avec... Enfin, il faut qu'on réfléchisse ensemble comment on peut faire... comment on peut faire, créer quelque chose. Si vous avez des idées... ici, c'est peut-être un peu petit. Alors, est-ce que c'est pour récolter de l'argent? Est-ce que c'est pour faire connaître... la situation au grand public?
Est-ce que c'est mieux de faire connaître, parce que aujourd'hui on parle vraiment d'urgence et de génocide imminent, quoi.
Ouais, c'est ça.
Donc en parlant de ça, ben voilà, on n'en sait pas si, si demain ou après-demain ça servira déjà plus à rien, donc.
Ouais, parce que donc j'ai pas lu les nouvelles aujourd'hui, mais j'ai essayé de suivre. Mm-hmm. Il y a un site, je vous signale, qui s'appelle Rojinfo, R-O-I-J-Info. Au mieux, c'est 20, des nouvelles de 24 heures en arrière. Maintenant, je pense que les nouvelles même de Afrin sont plus difficilement transmissibles parce qu'ils n'ont plus l'électricité, ils ont peut-être juste les liaisons satellites pour ceux qui resteraient encore. Et ils sont aux deux tiers, voire aux trois quarts encerclés, quoi. Mm-hmm. Il y a eu 30 000 habitants d'Afrin qui ont pu s'enfuir. Alors là, on ne sait pas aussi combien de victimes, parce que sur la route de fuite, ils passent pas loin d'une colline qui est tenue par leurs adversaires. Et là, dans la ville même, ils n'ont plus d'eau potable, plus d'électricité. Et comment ils vont tenir, quoi, le siège, s'il n'y a pas un déblocage quelconque. Et disons une action que, enfin, j'en avais parlé d'ailleurs aux Kurdes, y compris dans la marche, en leur signalant que les grandes puissances par rapport à la Bosnie, pendant quasiment 3 ans et demi, ils n'ont rien foutu. Mais au moins, il y a eu une chose qui a été faite, c'était l'interdiction de survol par l'aviation serbe en l'occurrence. C'était décrété 6 mois après l'agression, donc elle avait commencé en avril. C'est en novembre, tout survol d'avions serbes était interdit. Et s'ils survolaient, ils étaient abattus. Et on sait dans le conflit actuel, c'était le grand atout des forces turques, c'est l'aviation. Et là, comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu, par le Conseil de sécurité, une mise en place d'une telle interdiction, quoi? Parce qu'on sait bien que les protestations orales, ça, c'est des paix dans l'eau, quoi. Mm-hmm. Par contre, s'ils avaient pu... Mais là, ça demandait un mouvement populaire aussi pour soutenir une telle proposition, d'avoir des moyens antiaériens. Ils auraient abattu 3 ou 4 avions turcs comme avertissement. Mm-hmm. Peut-être ça aurait pu faire basculer dans le bon sens, quoi.
Mais la Turquie, elle n'a pas justifié son intervention en disant qu'elle voulait agir contre Daesh. Enfin, c'est parce que c'est tellement complexe.
Non, c'est pas contre Daesh.
Non,
ils considèrent les gens du Rojava comme terroristes.
Oui,
c'est ça le prétexte.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ils disent qu'ils agissent contre les terroristes. Et puis, pour certains, terroristes, c'est associé au Daesh.
Pas Daesh. Non.
Oui, je sais, mais il y a en fait un mélange comme ça.
Non, il n'y a pas de mélange, parce que le Rojava avec le PID était le fer de lance contre Daesh.
C'est une vieille histoire entre les Kurdes et les Turcs. À l'intérieur du pays aussi.
Je cherche une précision. Dernièrement, vous avez vu la situation au quartier de la Ghouta, donc en Syrie.
Ah ouais.
Voilà, qui est une situation catastrophique.
Ouais, au port de Damas.
Voilà, au port de Damas, 400 000 habitants. Ils vivent dans des caves qui ne sont pas comme ici aménagées pour être des abris. Donc les gens sont enterrés. Les enfants meurent vraiment tous les jours. Il n'y a plus de notable non plus. C'est une catastrophe. Il y a eu un rassemblement des femmes pour la démocratie, Place des Nations. Il y a
ici.
Je dirais peut-être 10 jours. Donc, pas samedi passé, mais samedi d'avant, a priori. Nous, on a fait un Skype avec elle depuis le Silur samedi passé.
J'ai écouté ça, très bien, magnifique.
Tu sais qu'on a carrément été cité au son du mois par les audioblogs d'Arte, donc mais on s'en fiche. Mais cette dame, elle était présente sur la Place des Nations. Il y avait quelques drapeaux du bataillon international, d'Ocalan, les drapeaux qu'on connaît bien. Et la petite communauté représentée kurde là criait très fort Erdogan, fasciste, etc. pour couvrir les prises de parole des femmes syriennes qui protestaient. Et j'ai complètement pas compris ce truc. Sur place, il y avait Joseph Dayer, que certains d'entre vous connaissent, qui lui-même est syrien, qui est un thésard à ce propos, donc c'est quelqu'un qui est en plus à solidarité, donc c'est quelqu'un, je lui ai dit, éclaire-moi, et puis j'ai demandé à la dame aussi, et eux m'ont parlé de problèmes de... comment dire, de, d'égo, quoi, d'une certaine manière. Est-ce que quelqu'un de vous sait comment il se fait que ces entités-là ne manifestent pas ensemble, non seulement, mais qu'en plus, parce que là, à un moment donné, la police est venue et a dit, va falloir vous décider. Parce qu'à un moment donné, il y avait effectivement les témoignages, même des directs avec des gens qui étaient dans les caves, que les personnes essayaient de faire à la place des nations. Et en même temps, les Kurdes qui, manifestement, cherchaient à couvrir les témoignages en scandant des slogans. À un moment, ils se sont fatigués, ils sont partis.
Saboter la manifestation.
Mais oui, les bras m'en tombaient. Et j'ai aperçu Ramazan. Moi, j'étais occupé vraiment avec la dame et j'essayais de capter ce que je pouvais. Mais alors, quelqu'un sait pourquoi ? Comment ça se fait ? Parce que, ou alors, est-ce qu'on n'essaie pas d'inviter les différentes parties ? Parce que moi, ces dames-là, j'aimerais bien qu'elles viennent, par exemple, ici, nous faire le récit de... Elles ont un courage et dans une situation... Mais comment ? Mais est-ce que quelqu'un s'explique pourquoi ? Non. Moi, parce que les informations que j'ai jusqu'à présent, elles sont vraiment...
Nos explications risquent d'être... Moi, j'ai des explications, mais comme ça, mais je suis tellement à l'extérieur de ça. Ouais. Mais je ne vais même pas lancer d'une explication. C'est des communautés qui voilà. Mais,
ouais.
Voilà. C'est-à-dire les... Mais ton idée, il faut retenir ton idée. Ouais. Mais par contre, est-ce que tu voudrais qu'on essaye de mettre les Kurdes et ces dames ensemble pour une discussion, pour essayer...
Ils ont un ennemi commun,
c'est ça le problème. Ils n'ont pas tout à fait... C'est deux choses différentes. Mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est les mêmes méthodes qui sont utilisées par Bachar el-Assad et par Erdogan. Et pendant que Bachar el-Assad et compagnie ils massacrent les gens là de la Ghouta, il ferait mieux d'arrêter cette offensive et puis d'aller aider les gens d'Afrin. En fait, les Kurdes, normalement, ils auraient dû manifester pour dire « Mais arrêtez d'attaquer la Ghouta, venez nous aider à Afrin ».